C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle d'influence marketing et pour m'accompagner, je suis avec Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, est-ce que tu es heureux en ce moment avec ce moins 3 degrés là qui te rappelle notre Haute-Savoie quasi natale pour moi et natale pour toi?
J'aime bien, on met un petit bonnet, des gants, c'est un plaisir. Moi j'aime bien l'hiver, c'est agréable.
Eh ben tant mieux alors.
Les amis, je le disais ce matin, on parle d'influence marketing. Les influenceurs sur les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui eh bien, des relais de visibilité de plus en plus prisés par les entreprises. Ça ne vous aura pas échappé. Le marché mondial du marketing d'influence connaît une très forte croissance. On va décrypter ça ensemble. Selon une étude Statista, il pesait déjà plus $1 milliard en 2016. Mais en l'espace de 4 ans, son chiffre d'affaires mondial a été multiplié par près de 4 pour atteindre $7 milliards à l'échelle mondiale en 2020, donc c'est beaucoup. Et l'émergence de ce nouveau marché, forcément, attire un certain nombre de boîtes spécialisées dans la gestion de la relation entre les marques et les influenceurs. Juste pareil, un chiffre, entre 2016 et 2020, on est passé de 300 agences ou plateformes spécialisées dans le sujet de l'influence marketing à plusieurs milliers. Et parmi celles-ci, eh bien, il y a une plateforme française qui s'appelle Reach, qui chaque année propose une étude poussée sur l'influence marketing en France, et c'est ça qui nous intéresse, une étude qui permet d'y voir plus clair sur les influenceuses et les influenceurs français.
Ouais, c'est une agence qui sort, comme tu le disais, chaque année, un espèce de bilan de l'année, et ça permet de faire un peu le point sur l'état de l'influence marketing en France sur les réseaux sociaux. C'est une belle étude, mais où la méthodologie est assez, on peut revenir tout de suite dessus pour savoir un petit peu où on met le nez, mais c'est une méthodologie qui est assez basique, puisque l'enquête se base sur un questionnaire qui est transmis aux 1423 influenceurs qui sont tous gérés par cette agence Reach. Donc forcément, sur les questions de l'échantillonnage en tant qu'ancien sociologue, sur les questions de l'échantillonnage de cette enquête, en tout cas, on n'est pas très scientifique. Mais
ça c'est les précisions du professeur Chélil.
Voilà, mais ça nous donne quand même une bonne idée, une bonne base de réflexion pour ensuite pouvoir réfléchir un peu, parce que 1423 influenceurs, c'est quand même pas rien, c'est quand même costaud, et ça va nous permettre de dresser en tout cas un petit profil des influenceurs qui sont déjà gérés par l'agence Reach. Et puis tu le disais, au final, il y a plus en plus d'agences parce que c'est un business qui grandit, donc forcément qui s'organise petit à petit.
Ouais, Reach, c'est à la fois une agence et une plateforme qui fait de la mise en relation entre les influenceuses, influenceurs et les marques. Alors effectivement, dans cette étude, qu'est-ce qu'on apprend ? Eh ben, on apprend pas mal de choses, c'est quand même très intéressant. On apprend, comme je le disais, que l'influence marketing se porte bien et que l'année 2021 s'annonce d'ores et déjà florissante. En 2020, 81% des créateurs, on va revenir sur ce thème, créateurs de contenu, ont effectué au moins un partenariat cette année. Donc oui, être influenceur et influenceuse, oui, il y a des budgets qui se libèrent, il y a des velléités de marque. Et effectivement, quand les créateurs de contenu, cette année, en 2020, ont collaboré beaucoup avec les marques. L'étude, elle explique aussi qu'en 2020, 51% des créateurs ont reçu plus de demandes de partenariat que l'année précédente. Donc tout est en hausse. Et puis elle confirme aussi qu'elles ont été 47% des influenceuses et influenceurs confirment avoir été davantage contactés, mis en direct par les marques.
Ouais, ça c'est un chiffre qui est ultra intéressant, tout ce que tu viens de citer sur la croissance de ce secteur-là. Pour tous les créateurs, en tout cas, qui ont répondu à cette étude, il y a une véritable croissance. Il y en a 50% qui affirment que le confinement, d'ailleurs, dans cette année 2020, les a aidés tout simplement à agrandir leur communauté. Donc, on avait déjà un petit peu parlé, mais le confinement a eu comme conséquence d'augmenter aussi le trafic sur les réseaux sociaux et ça se ressent aussi dans le monde de l'influence. Dans ce contexte, pour revenir sur l'année 2020, il y a eu le confinement d'un côté. Autre chiffre qui m'a paru assez intéressant autour du contexte, c'est TikTok et l'avènement de TikTok, puisque ça fait partie du contexte 2020. C'est clairement la plateforme qui arrive fort dans l'influence marketing, avec 41% des créateurs qui ont été interrogés qui se sont inscrits cette année en 2020 sur TikTok. Donc, c'est que les créateurs de contenu n'ont pas envie de rater le bon wagon, en fait.
Ouais, on va y revenir sur TikTok, t'as raison, mais ça c'est un déclencheur. Il s'est passé des choses en 2020 du côté des plateformes d'influence. Déjà, deux choses. Vous avez entendu, on dit influenceuse, influenceur, créateur, créatrice de contenu. Oui, parce qu'on, les amis, on ne dira plus influenceur. Il faut dire maintenant créateur de contenu. 67% des influenceurs préfèrent qu'on les appelle créateurs de contenu. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ce qu'on apprend aussi dans cette étude, c'est 96% des influenceurs disent se lancer, entre guillemets, dans l'influence marketing pour partager leur passion. C'est vrai que ça fait une grosse différence. Hein, ce terme d'influenceur, il a été un peu galvaudé. Et on comprend que les Instagrammeuses, Instagrammeurs, TikTokers, TikTokeuses ne veulent pas se faire appeler comme ça et préfèrent le terme de créateur de contenu. D'autant plus que, bah oui, il faut un certain nombre d'expertise de création de contenu pour intéresser les marques.
Hein. Oui, oui. Et puis, on va peut-être rentrer un peu après dans le vif du sujet, dans les explications de pourquoi ce glissement d'influenceurs vers créateur de contenu, mais il y en a déjà un qui est évident, c'est que bah, si à la base tout était basé sur l'influence potentielle d'un compte, aujourd'hui on sent bien que la qualité du contenu que ce compte produit devient un argument très très important pour convaincre une marque de travailler avec un créateur de contenu. La marque, elle vient acheter autant l'influence que la qualité du contenu, et c'est pour ça que créateur de contenu, c'est tout à fait approprié.
Ouais, tout à fait. Alors c'est quoi le profil type de ces créateurs de contenu français? L'étude là-dessus, elle nous offre pas mal d'infos. Hein.
Ouais, alors en moyenne, c'est le créateur ou la créatrice plutôt, je dirais, en moyenne, à 30 ans. Et 75% de ces créateurs, créatrices sont des femmes. Donc, on a clairement là un profil qui se dégage. 90% d'entre eux se lancent à la base pour partager leur passion. Et ça, on va revenir aussi après dessus parce que ça me paraît être un argument qui est assez intéressant dans le prisme que ces influenceurs créateurs de contenu ont de leur propre métier. On est sur un profil de personne qui n'est pas vraiment professionnel. Et ça, c'est un truc qui est ultra aussi intéressant, je trouve, dans la lecture de cette étude. C'est que peut-être que c'est un secteur qui est porteur et qui est en pleine croissance, mais il y a 39% de ces créateurs de contenu qui sont encore salariés. Et il y a même un autre chiffre qui est très étonnant, je trouve, c'est qu'il y a seulement 15% d'entre eux qui font de l'influence leur activité principale. En fait, ça veut quand même dire qu'il y a 85% de ces créateurs de contenu pour qui l'influence marketing c'est qu'une activité complémentaire en plus d'une autre activité. Et ça, je trouve que ça en dit long quand même sur la pérennité de ce métier-là qui est en devenir sur les réseaux sociaux et sur les opportunités qui peuvent exister si vous voulez vous lancer dans la création de contenu et l'influence marketing. Attention, ça reste un secteur où il y a peu de personnes qui en vivent complètement.
Ouais, on parlera de rémunération après, hein, parce que là aussi, on a des chiffres très intéressants de ce côté-là. De quoi ils parlent, ces créateurs ou ces créatrices de contenu plutôt? Eh bien, ils parlent de le sujet lifestyle. Hein, vous savez, cette fameuse catégorie de contenu, oui. Notamment mode, beauté, etc. C'est les deux principales thématiques abordées. Hein. Plus de 40% des créateurs de contenu parlent de ces sujets lifestyle. Le voyage aussi est toujours un grand classique. Alors, étonnamment, je dirais, puisque cette année 2020 a été compliquée de ce côté-là. 36% des créateurs de contenu ont quand même parlé de voyage en 2020, donc ils ont dû être créatifs, justement. Et 36% parlent de food. Hein. Ça, c'est à peu près pour les gros sujets évoqués. Dans les tendances à la hausse en matière de prise de parole pour ces créateurs de contenu, il y a le sujet, ça c'est intéressant, de la déco, du bricolage. Hein. Peut-être que le confinement là-dessus a rajouté quelque chose, donc le do-it-yourself notamment, on passe de 17% en 2019 à 20% des créateurs de contenu qui proposent régulièrement ou ont un périmètre d'influence autour du do-it-yourself et du bricolage. Et puis, on retrouve un gros sujet, et là aussi, 2020 aura sans doute marqué l'année, enfin l'année aura été marquée notamment par ça, c'est les causes d'intérêt public. Hein. Elles sont aussi extrêmement plébiscitées avec des partenariats, là aussi, rémunérés ou non. Et parmi les créateurs, en 2020, 47% ont réalisé un partenariat d'intérêt public. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour une bonne cause, quoi. Je soutiens porter le masque, je soutiens mon artisan, etc., etc.
Parfois, manger 5 fruits et légumes par jour.
Pourquoi pas, ouais, tout à fait. Zéro gaspille, etc. Un peu plus de la moitié de ces partenariats d'intérêt public étaient non rémunérés. Donc, on le voit, comme tu l'as dit, ces influenceurs, ils sont, ou ces créateurs de contenu, ils veulent pas forcément la grosse moula, hein, c'est pas forcément le sujet. C'est aussi mettre à profit leur périmètre d'influence pour parler des causes qui leur sont chères.
Oui, oui, ça vient compléter déjà ce qu'on raconte depuis un petit moment dans le Super Daily, mais 2020 a été une année un petit peu charnière aussi dans le... autour du côté justement de l'engagement sur les réseaux et la manière dont les réseaux sociaux, bah, quand même petit à petit, laissent de la place à l'engagement citoyen autour des contenus plus privés ou alors des contenus de marque. Tu revenais sur le côté passionné et ça, je trouve ça ultra intéressant dans le glissement vers le terme créateur de contenu. S'ils appréhendent leur métier aujourd'hui plus comme des créateurs de contenu, c'est justement parce que ce sont d'abord des passionnés. Les créateurs de contenu vont petit à petit construire une communauté, acquérir une influence, mais c'est pas la première chose pour laquelle ils vont sur les réseaux sociaux. Ils y vont d'abord pour partager leur propre passion sur les réseaux, sur les plateformes. Et donc, le côté influenceur, bah, en fait, il vient que dans un deuxième temps. Et parfois même, il vient pas du tout si vous n'arrivez pas à faire grossir votre compte énormément. Mais il y a une chose qui les relie tous entre eux, ces influenceurs, comme on les appelait avant, et bah, c'est leur passion, c'est le sujet duquel ils vont parler sur les plateformes. Et c'est aussi pour ça, bah, quand on est une marque, qu'on va chercher ces créateurs de contenu, c'est parce que c'est des passionnés qui parlent de quelque chose et que si c'est quelque chose à des valeurs communes avec notre marque, et bah là, ça devient intéressant.
Ils sont d'abord créateurs de contenu et ensuite ils deviennent influenceurs.
C'est ça, exactement. Et du coup, bah, ça se ressent dans leur motivation. Là, on a des chiffres un petit peu sur les motivations de ces créateurs de contenu. Bah, 92% d'entre eux, leur première motivation, c'est de partager leur passion. 82% d'entre eux, c'est de s'amuser. 55% faire passer un message, 41% se faire connaître, 38% promouvoir son activité et 26% gagner de l'argent. Donc, c'est peut-être un petit peu démagogique par moment dans les réponses de certains, mais on sent quand même qu'il y a une tendance hein, qui est bon, dans un deuxième temps, si ça peut m'aider à me faire un peu connaître ou faire monter mon activité, gagner de l'argent, ça peut être bien. Mais dans un premier temps, la chose le plus important, bah, c'est que j'ai envie de partager quelque chose, quoi.
Ouais, et puis alors là aussi, ils n'hésitent pas à être sélectifs hein, et à refuser certains partenariats. Ça, c'est quand même très intéressant. Et là-dessus, les logiques de refus, hein, qu'est-ce qui peut être motif de refus ? Eh bien, le créateur de contenu n'aime pas le produit, par exemple, ou ne croit pas dans le produit. 65% des influenceurs disent « oui, je suis prêt à refuser un partenariat si je ne crois pas dans le produit ». Les créateurs de contenu et la marque ont des valeurs incompatibles. Ils ne sont pas alignés sur des sujets RSE, sur des sujets écologiques, sur des sujets sociétaux. 55% sont prêts à refuser un partenariat. Et puis, le créateur n'a juste pas d'affinité avec la marque. Cette marque, elle est en dehors de sa ligne éditoriale en tant que créateur de contenu. Du coup, 46% sont prêts là aussi à refuser. Donc, on le voit, effectivement, ce sont d'abord des créateurs de contenu et ensuite, ils deviennent des influenceurs. Et avec ce prisme-là, avec cette lecture, ben, ils respectent leurs audiences, ils respectent leur ligne éditoriale et ils font attention aux partenariats qu'ils choisissent.
Oui, d'ailleurs, je trouve que les meilleurs créateurs de contenu en général, ceux qui bossent le mieux sur le long terme, ce sont justement ceux qui ont conscience de ça et qui savent que leur vraie valeur ajoutée pour les marques, c'est leur création de contenu et pas seulement juste leur influence et le nombre de personnes qu'ils peuvent toucher. Et c'est là que la différence va se faire entre les influenceurs.
Alors, tu parlais tout à l'heure de plateforme avec TikTok. Instagram, malgré tout, hein, ça reste la plateforme numéro 1 de l'influence marketing. Hein, c'est là que se joue aujourd'hui le gros du marché de l'influence marketing. 94% des créateurs de contenu y sont actifs. C'est vraiment le lieu où voilà, les marques collaborent avec des créateurs de contenu, suivi de près, et ça je trouve ça assez étonnant, par Facebook hein, qui rassemble 39% des créateurs.
Faut pas oublier que Facebook reste une des plus grosses plateformes qui existent.
Oui, alors à chaque fois qu'on parle de Facebook, c'est toujours un peu une surprise parce qu'on a enterré, tout le monde a un peu enterré trop tôt Facebook. Non, 39% du marché de l'influence marketing se passe sur Facebook. Et puis, fait étrange, hein, dans les chiffres proposés par Rich de cette étude, le blog est toujours bien vivant et reste dans le top des plateformes utilisées, avec peut-être même une petite hausse hein, sur ces contenus-là, avec sans doute ces logiques de jardin numérique, tu sais, paradis numérique, où les gens se créent leurs petits espaces, justement peut-être loin aussi des prises de bec ou des clivages des réseaux sociaux, et créent un espace de libre expression.
Oui, et puis on voit beaucoup de créateurs de contenu aussi qui tiennent un blog en parallèle de leur réseau et qui, quand font un partenariat avec une marque, bah, incorporent à l'intérieur du pack un article sur leur blog en plus de posts sur les réseaux.
Voilà, et la grosse nouveauté, bah, tu l'as dit, en 2020, c'est TikTok. TikTok, 41% des influenceurs se sont inscrits sur TikTok en 2020, hein, quand même, gros gros virage, tout le monde est allé tester, voir ce que ça donnait. Alors, à noter quand même qu'aujourd'hui, TikTok ne représente que 4% des demandes de partenariat avec les marques, et ça tient sans doute plus aux marques qu'aux créateurs de contenu. Nous, marques, nous, marketeurs, nous, social media managers, voyageurs, on ne sait pas encore trop comment gérer ça. Il est vraisemblable que le marché de l'influence va aussi aller se déplacer du côté de TikTok petit à petit. Hein.
Ouais, ouais, là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on sent que les créateurs de contenu ne voulaient pas rater le bon wagon. TikTok, on en a déjà parlé, il y a une grosse puissance organique, on peut émerger très très vite avec du contenu de qualité. Et du coup, bah, on sent que les créateurs de contenu voulaient tout de suite prendre position et pas rater le bon wagon, alors qu'en face, on le sait, bah, les marques, elles mettent plus de temps à se décider, c'est un petit peu plus difficile, elles sont plus frileuses d'aller sur des terrains comme ça un peu plus inconnus, elles préfèrent la sûreté d'Instagram.
Alors, combien ils gagnent ces créateurs de contenu, ces influenceurs? Ça, c'est un gros sujet, hein. On pourrait faire, je sais pas, une zone interdite là-dessus, tu sais, ça, c'est le sujet. Après, les youtubeurs, maintenant, le gros sujet, c'est qui sont ces gens qui gagnent des millions en vendant leur influence sur les réseaux? Ben, ils gagnent pas grand-chose, ils gagnent certainement pas des millions, ces influenceurs. Alors déjà, seulement 15%, tu l'as dit tout à l'heure, déclarent que la création de contenu, l'influence marketing est leur activité à plein temps.
Ça, c'est
vraiment
fou,
très modeste.
Hein. Ouais, c'est fou. C'est franchement, dans ma tête, ça sautait comme des sportifs de haut niveau qui seraient professionnels, tu vois. Genre, il y a plein de gamins qui rêvent de faire ça. Au final, il n'y en a que quelques-uns qui seront pros à la fin. Bah, c'est un peu pareil, un peu sort de contenu.
Voilà. Et puis, alors, malgré ça, malgré la crise, hein, malgré le contexte compliqué, malgré tout, la rémunération moyenne des partenariats, elle poursuit sa hausse. Hein. On le sait, initialement, c'était quand même très, très modeste. Et puis, petit à petit, ça grimpe. Aujourd'hui, 75%. Alors, je dis aujourd'hui, en 2020, 75% des partenariats rémunérés restaient malgré tout en dessous de 500 €. 500 euros pour une action avec un influenceur, un créateur de contenu. Voilà, c'est, aujourd'hui, c'est à peu près le gros des billets. 75% des opérations se situent dans un budget en dessous de 500 €.
Ouais, je pense qu'on peut ajouter aussi que pour côté marque, pour tous les marketeurs qui nous écoutent, quand vous faites de l'influence marketing, bah, vous n'achetez pas de la publicité. Et du coup, bah, lorsque vous travaillez avec des créateurs de contenu, vous n'achetez pas un espace publicitaire seulement, vous achetez du contenu qui va être diffusé certes sur, entre guillemets, un nouveau canal, peut-être une nouvelle audience que vous avez du mal à toucher, mais vous travaillez d'abord avec un créateur de contenu qui, lui, ne veut pas être sollicité juste pour faire de la publicité, mais plutôt pour créer du contenu pour vous. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'est le glissement où tous les marketeurs et marques doivent faire aussi le déclic dans leur tête, que quand ils viennent chercher un créateur de contenu, bah, il faut lui laisser la liberté aussi à lui de créer un contenu qui parle de votre marque ou qui parle de valeurs communes ou de produits, mais en tout cas, lui laisser créer ce contenu assez librement pour avoir un bon résultat.
Oui, d'ailleurs, les plateformes, elles l'ont bien compris, ça, hein, puisqu'il y a un sujet très intéressant qu'on a vu émerger en 2020 et qui va être une des tendances fortes de 2021, c'est l'amplification des actions d'influence marketing. C'est-à-dire, oui, effectivement, mon créateur de contenu, je vais le chercher pour les bonnes raisons. Il a une base d'audience sur laquelle il a une influence. Et puis surtout, il crée du contenu. Mais ce contenu de qualité, les plateformes, notamment Facebook et Instagram, m'offrent la possibilité aujourd'hui d'amplifier ces contenus. Vous savez, c'est cette capacité de faire de l'achat média en tant que marque directement sur le contenu de l'influenceur et au nom de celui-ci. En gros, je mets 500 balles dans mon billet d'influence et puis j'en mets peut-être autant, à peu près le même montant sur du publicitaire qui va être directement rapporté au compte de l'influenceur, donc va étendre sa capacité d'influence. Ça, c'est une grosse tendance. Hein. En 2020, 45% des influenceurs français ont déjà participé à des partenariats avec amplification publicitaire. Donc, on le voit, le modèle est en train de sérieusement prendre forme. Hein.
Ouais, ça, c'est clairement le prolongement de ce qu'on disait juste avant. C'est on vient acheter de la création de contenu, pas juste une influence et l'espace publicitaire, du coup, on l'achète à part.
Voilà, les amis. Évidemment, on vous met le lien direct vers cette étude très intéressante de Rich. Je joindrai aussi le lien vers l'étude Statista, hein, qui parle aussi d'influence marketing. N'hésitez pas à venir papoter avec nous de ce sujet influence marketing, création de contenu sur les réseaux sociaux.
Si vous êtes d'ailleurs des créateurs de contenu, venez nous raconter un peu si vous arrivez à vivre de cette activité-là ou si c'est en complémentarité de quelque chose d'autre. N'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux Ads Super Natifs, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, TikTok ou même Pinterest. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, laissez-nous une petite note, un commentaire là tout de suite maintenant. Descendez dans Apple Podcast, allez nous dire ce que vous pensez de cet épisode et nous on se retrouve dès demain tout simplement.
Ouais, rendez-vous dès demain, salut à tous, allez. Très très belle journée, ciao.
Ciao.